bien, la transition est donc toute faite, puisque Alexis a ouvert le débat sur la notion que j'utilise. Alors, je vais apporter quelques petits éléments de réponse à ce que Alexis vient de dire, mais en même temps, en vous signalant que mon intervention n'était pas construite par rapport à ce qui précède, évidemment. Donc, après, je reprendrai le fil de mon raisonnement. Qu'il y ait des contradictions dans l'appareil d'État, ça me paraît tout à fait évident, et une diversité de points de vue parmi les fonctionnaires, c'est tout à fait certain. Mais c'est un phénomène qui est général, je veux dire, dans toutes les configurations historiques, dans toutes les périodes de l'histoire, quelles que soient les dérives de l'État, vous avez de la diversité et des contradictions, je dirais, que dans toute organisation humaine, quelles que soient les tendances dominantes, vous trouverez de la diversité et de la contradiction. Si vous faites une sociologie approfondie, je dirais, de l'Église catholique, vous allez trouver de la contradiction. Ça n'empêche pas qu'il y ait des tendances, par exemple, doctrinales, idéologiques, qui prédominent dans cette organisation. Et même si vous prenez une fraction extrêmement réduite, comme celle des intégristes catholiques, et que vous faites une micro-sociologie sur les intégristes catholiques, vous allez trouver une très grande diversité des contradictions, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des tendances prédominantes. Alors, lorsqu'on parle de xénophobie d'État, on ne nie pas la diversité interne à l'appareil d'État, on pointe simplement des tendances prédominantes, ce qui me paraît tout à fait le rôle des sociologues. Alors, le sujet que je vous ai proposé, xénophobie et nationalisme d'État, comment résister, c'est un sujet extrêmement vaste, je le dis tout de suite. Vaste à la fois par la temporalité historique qu'il recouvre, puisque le phénomène que j'évoque dans la première partie du sujet, je le situe sur une temporalité de plusieurs décennies, voire du demi-siècle, ce qui va m'obliger, dans une intervention de 20 minutes, à aller extrêmement vite sur la partie justement diagnostique de cette xénophobie d'État. Pour aborder la deuxième question, qui est une question que je travaille depuis quelques mois, pas seul d'ailleurs, on est plusieurs dans le cadre du réseau Terra à se mettre à réfléchir à cette question. Et cette question, y compris pour les sociologues, est une question extrêmement vaste et complexe, vous allez le voir, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des positions politiques pour y répondre, si on veut l'aborder justement à partir de ce que nous permettent de faire les sciences humaines et sociales en termes d'analyse de la complexité des situations, des conjonctures, des rapports de force, etc. Donc là, en 20 minutes, ça sera un petit peu à la serpette sur pas mal de choses. Le diagnostic xénophobie, nationalisme d'État, moi je parlais de xénophobie de gouvernement, notamment dans un article publié en 2005 dans la revue Culture et Conflits, sur le numéro qui a été cité tout à l'heure, l'Europe des camps. En 2005, dans les séminaires académiques, parler de xénophobie de gouvernement était extrêmement difficile. Les collègues des sciences humaines et sociales résistant énormément à cette notion sur le mode, c'est un peu outrancier, tu es un peu trop militant, tu exagères, tu impliques éventuellement une sorte de comparaison implicite avec des situations extrêmes comme les situations d'apartheid, d'antisémitisme d'État, etc. etc. Et donc il fallait vraiment ramer pour essayer d'objectiver justement un objet. J'observe que depuis 2007 et 2009 en particulier, c'est beaucoup plus facile d'en parler dans les colloques académiques, mais parce qu'un certain nombre de collègues ont, je pense, ouvert les yeux au moment de la création du ministère d'identité nationale en 2007. Donc ça a eu un effet d'électrochoc très net. On le voyait par exemple à l'EHESS où on a eu une grande rencontre avec 200 personnes, effectivement, qui, le fait dont on était un certain nombre de spécialistes à parler depuis plusieurs années s'imposait comme une sorte d'évidence. Le grand débat sur l'identité nationale des derniers mois, alors, a décuplé considérablement ce phénomène de réveil des consciences ou d'ouverture des yeux. Je n'ai jamais vu autant de chercheurs peu spécialisés sur le domaine prendre la parole publiquement sous forme de tribune d'opinion. Donc, il y a effectivement... Et dans ce contexte-là, je dirais que ce diagnostic passe beaucoup, beaucoup mieux dans le champ des sciences humaines et sociales. Pour le dire vite, je pense que Nicolas Sarkozy est arrivé beaucoup mieux que les chercheurs à objectiver le phénomène qu'on était un certain nombre à essayer de faire apparaître antérieurement. Alors maintenant, il est d'une certaine manière préconstruit, c'est cet objet nationalisme et xénophobie d'État, ce qui présente aussi des inconvénients. Il est presque construit, notamment aux yeux du grand public, c'est-à-dire que on arrive à désigner assez vite, notamment en citant le ministère ou le grand débat, ce dont on parle. Cette préconstruction est problématique parce que ce que je vois dominer, notamment dans la presse, dans les médias des derniers mois, à travers les prises de position politiques, notamment des chercheurs, c'est, et notamment de ceux qui n'ont pas travaillé depuis des années et des années sur ces sujets, c'est une sorte de réduction du phénomène à la conjoncture sarkozyste. Hein, c'est-à-dire l'idée, au fond, que ce nationalisme et cette xénophobie d'État seraient liés à une stratégie électorale particulière de Sarkozy, en rupture avec celle notamment de Jacques Chirac, une droite décomplexée qui, pour aller chercher les voix du Front National, franchirait une ligne de démarcation qui a plus ou moins existé, peut-être de manière imaginaire, entre la droite de gouvernement et l'extrême droite. Alors, il y a une part de vérité dans cela, en ce sens qu'il y a un effet d'accélération considérable avec cette stratégie sarkozyste, un effet effectivement d'officialisation de ce nationalisme d'État, de cette xénophobie. Si on lit la lettre de cadrage, par exemple, du grand débat sur l'identité nationale, envoyée à l'ensemble des préfets pour animer les débats dans chaque préfecture, donc là encore, parler de nationalisme d'État et de xénophobie d'État me paraît tellement évident à la lecture de cette lettre que je ne vois pas comment on pourrait en parler autrement. Il y a effectivement un effet d'accélération, une sorte de légitimation de ce qui pouvait demeurer un peu plus latéral, un peu plus implicite jusqu'à présent. Mais fondamentalement, je pense que ça serait une erreur complète de réduire ce diagnostic de nationalisme et xénophobie d'État à cette accélération sarkozyste. C'est un phénomène, je vais insister essentiellement là-dessus, c'est un phénomène de longue période qui se joue sur au moins un demi-siècle d'histoire s'agissant de la France et de la plupart des autres pays européens. Et c'est un phénomène qui n'est pas spécifiquement national s'agissant de la France, mais qui est un phénomène très largement européen, avec des phénomènes de convergence et de surenchère au cours de l'histoire européenne, qui en font un phénomène global, plus marqué, me semble-t-il, sur le continent européen que sur d'autres continents, notamment nord-américains, où il y a effectivement des enjeux anti-migratoires qui sont très présents dans la vie politique, mais qui ne prennent pas la même forme, mais justement cette forme de nationalisme xénophobe qu'on impute traditionnellement à l'extrême droite et qui est très caractéristique du champ politique européen. Donc, tous mes travaux depuis 6 ans sur cette question visent à soutenir l'hypothèse ou la thèse d'un phénomène qui n'est pas un phénomène de court terme ou de conjoncture électorale, mais qui est un phénomène de long terme, et donc un phénomène beaucoup plus structurel, structurant dans l'organisation du système politique français et européen. Je centre mes analyses sur la France, mais en cherchant à ouvrir tout le temps à la dimension européenne, en raison des interdépendances très fortes entre les champs politiques dans le cadre de l'Union européenne. Cette question du diagnostic que l'on porte, conjoncturel ou structurel, de courte période ou de longue période, est très important pour aborder la question comment y résister, parce que suivant le type de diagnostic que l'on va faire du phénomène, les stratégies ou les réponses qui peuvent être apportées pour chercher à contrer cette évolution historique ne seront pas les mêmes. Hein. C'est-à-dire que si on fait, on le verra tout à l'heure, j'en parlerai par exemple avec la revendication qu'ont porté un certain nombre de collègues de l'EHESS, notamment du Collège de France et d'autres institutions, pour la suppression du ministère de l'Identité nationale. Voilà, on a vu apparaître ensuite une deuxième tribune dont j'étais à l'origine disant, oui, supprimer le ministère de l'Identité nationale, qu'est-ce que ça veut dire en termes de diagnostic socio-historique que l'on porte sur cette institution, et est-ce que c'est le ministère qu'il faut supprimer ou est-ce que c'est le mouvement historique qui l'a fait naître, c'est-à-dire justement ce mouvement de remontée des nationalismes en Europe et d'institutionnalisation de la xénophobie dans l'appareil d'État. Alors, pour aborder cette question, il faut d'abord se demander qu'est-ce que c'est que la xénophobie. Je crois qu'il y a une partie des malentendus, y compris là dans les discussions que l'on a, qui portent sur justement la définition de cette notion. La définition, le sens commun de la notion de xénophobie, que l'on trouvait encore il y a quelques années, c'est en train de changer ces dernières années dans la plupart des dictionnaires, renvoie à une définition plutôt psychologique ou comportementale de la xénophobie, c'est-à-dire la présente essentiellement sur le mode d'une expression d'hostilité vis-à-vis des étrangers, une expression relativement explicite à partir de gestes qui sont propos racistes, agressions, graffiti, dérapages verbaux, etc., etc. Je pense que dans une optique tout à fait classiquement durkheimienne, il y a lieu, pour aborder le phénomène, de passer de cette définition psychologique à une définition sociologique, qui depuis un ou deux ans, dans les dictionnaires en ligne d'ailleurs, est en train de passer au premier rang dans les dictionnaires, qui pointe les deux approches possibles de la notion de xénophobie, en parlant à ce moment-là d'un phénomène social, qui peut se traduire sous des formes diverses et variées, l'expression, je dirais, populaire d'hostilité par des gestes de haine n'en étant qu'une forme parmi d'autres. Et j'abonde tout à fait dans ce sens-là en considérant, enfin en définissant à titre de définition préalable la xénophobie comme l'ensemble des discours et des actes tendant, en dehors des situations d'invasion militaire, à désigner l'étranger comme un problème, un risque ou une menace pour la société d'accueil. Et si on veut développer la définition, à le tenir à l'écart de cette société, que l'étranger soit au loin susceptible de venir ou déjà arrivé dans cette société. Alors à partir de cette définition, on peut effectivement faire de la sociologie, c'est-à-dire distinguer les formes de xénophobie. On peut distinguer en particulier une xénophobie contestataire, qui est assez caractéristique de la xénophobie d'extrême droite, et une xénophobie de gouvernement, comme je le disais alors, ou xénophobie d'État, je reviendrai sur cette nuance. Mais en voyant bien que ces deux formes de xénophobie ne vont pas s'exprimer de la même façon. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'exprimer, surtout aujourd'hui, où le racisme biologique a été à peu près évincé à la fois du champ scientifique et politique, sous la forme... sur le champ scientifique, c'est assez net. On n'a plus de théorie à la Gobineau, etc. etc. Y a peut-être quelques-uns encore marginaux, mais enfin, on n'est pas dans la même situation qu'au début du XXe siècle. Et le racisme, en tout cas la xénophobie, s'exprime de manière moins biologisante. Et de toute façon, cette xénophobie de gouvernement, par opposition à la xénophobie contestataire justement des partis d'extrême droite, n'implique pas nécessairement d'expression d'hostilité et de haine vis-à-vis des étrangers. Elle peut se construire de manière beaucoup plus polissée dans le langage, simplement à travers l'ensemble des actes, et notamment des actes publics, des législations, des discours officiels, des actes administratifs, des circulaires, des réorganisations administratives, en tant qu'elles pointent le problème de l'étranger et qu'elle le désigne comme justement un problème, une menace ou un risque pour la société. Ce qui donne, je dirais, une xénophobie technocratique dans ses modalités d'expression qui ne se repère pas de la même façon que la xénophobie de rue, la xénophobie populaire ou la xénophobie d'extrême droite. On pourrait aussi approfondir la sociologie sous l'angle de la différenciation entre justement la xénophobie, par exemple, qui serait caractéristique des classes populaires et la xénophobie qui serait caractéristique des élites dirigeantes. Je ne vois aucune raison, a priori, de préjuger une immunité des élites dirigeantes à l'égard de ce phénomène. Toute notre histoire nous a démontré que le contraire se vérifiait. C'était assez clair, notamment pour l'antisémitisme d'État. Alors, xénophobie de gouvernement, xénophobie d'État, la nuance vient du fait que lorsque je travaillais sur ces questions en 2003, 2004, 2005, d'abord, les contraintes du champ académique sont fortes, hein, de toute façon pour les chercheurs, il faut bien en avoir conscience, j'y reviendrai un petit peu. Et donc, connaissant bien justement cet environnement, le mainstream et les idées dominantes, j'intériorisais sans doute aussi une certaine prudence dans la terminologie en pointant l'instance gouvernementale et je dirais les politiques publiques, les politiques gouvernementales. À partir du moment où on a, en 2007, la première création depuis deux siècles d'histoire républicaine du premier ministère de l'identité nationale sans précédent historique, puisque je suis de ceux qui refusent la comparaison avec la période de la guerre, on est bien obligé de changer de terminologie et d'indiquer qu'on a là, dans l'appareil d'État, dans l'organigramme officiel de l'État et dans la structuration même des directions ministérielles qui étaient autrefois éclatées, qui ont été regroupées sous ce ministère, une structuration qui est proprement étatique de la question identitaire et xénophobe. Donc, d'où le changement de terminologie que j'opère depuis un certain temps. Je dirais que le grand débat sur l'identité nationale et le degré d'engagement des préfectures dans ce débat, mis en opposition aux immigrés, clairement et officiellement, ne fait que me donner une raison supplémentaire de parler aujourd'hui de xénophobie d'État et non de gouvernement. Je disais que je refuse la comparaison avec la période 39-45. Ça, pour le coup, certains collègues, je pense à Emmanuel Terrel, la font. Je la trouve abusive à bien des égards. Je ne pense pas que la direction des affaires juives, des questions juives, ait quoi que ce soit de comparable avec le ministère de l'Identité nationale. Et je ne crois pas non plus que les politiques publiques entre 39 et 45 puissent être comparées avec celles d'aujourd'hui, à la fois pour des raisons qui tiennent à l'exceptionnalité de la Shoah. Et donc l'ensemble des actes, y compris microsociologiques des acteurs, ne peuvent pas être déconnectés de ce contexte et du niveau d'information, même s'il était partiel, dont ils pouvaient disposer sur le sort des personnes. D'autre part, le contexte géopolitique européen était totalement différent, avec des dictatures fascistes à toutes nos portes, avec une présence nazie, etc., etc. L'État complètement déstructuré, c'est-à-dire l'ensemble des autorités symboliques permettant de guider aussi les acteurs dans leurs actes quotidiens extrêmement différents d'aujourd'hui. Et puis, une autre raison qui fait que je refuse foncièrement cette comparaison avec la période 39-45, c'est qu'elle implique, de manière très implicite, une sous-estimation considérable du niveau de racisme d'État qui ont été ceux de la Troisième et de la Quatrième République. Et ça, c'est un des premiers éléments, je pense, socio-historiques à considérer sur cette xénophobie d'État. C'est le fond, l'héritage culturel de nos régimes, dont on sait peu de choses. C'est-à-dire qu'on apprend à l'école, la période coloniale, on apprend surtout les guerres de décolonisation qui sont au programme du baccalauréat. On apprend très peu de choses sur l'État colonial français. Et si vous allez voir les manuels de sciences politiques, je parle de ma discipline, qui sont aux mains des étudiants en première année, dans leur grande diversité, il y en a près de 25. Pour avoir fait le cours de première année pendant des années, je les connais bien. Il n'y en a aucun qui traite de cette dimension coloniale de l'organisation de l'État et des politiques sous la Troisième et sous la Quatrième République, ou alors sur le mode fugace de l'allusion, alors que ça pouvait représenter 20 à 30% des masses budgétaires. C'était une partie de la fonction publique considérable qui était implantée sur nos colonies et régulée à partir de la métropole. C'était un flux de débats législatifs, de production réglementaire considérable prise à partir de la métropole, c'est-à-dire une dimension de l'État extrêmement importante qui intégrait des parties culturelles dans le rapport à l'indigène et dans la différenciation raciste entre les Français de la métropole et les indigènes. Et faute d'avoir jamais fait ce retour mémorial, historique, et d'avoir intégré cette dimension-là de notre propre histoire étatique dans notre connaissance que l'on en a aujourd'hui, je pense qu'on reste très tributaire, malgré nous, de cette culture coloniale. Autre dimension de ce phénomène, c'est l'impact de la décolonisation sur les métropoles. Ça encore, c'est une dimension très peu connue. On connaît assez bien les guerres de libération et le passage à l'indépendance des ex-colonies, mais l'impact politique de la décolonisation sur la métropole est très peu connu, sauf depuis quelques années un certain nombre de travaux de jeunes chercheurs, socio-historiens. Je pense notamment au numéro dirigé par Françoise de Barros dans la revue Politique, la colonie rapatriée. Je vous renvoie aussi à l'ouvrage de Sylvain Laurence, qui est un ouvrage absolument essentiel pour réinterpréter aujourd'hui les questions migratoires, qui parle d'une politisation feutrée de l'émergence des politiques migratoires durant les années 60, en montrant que justement le rapatriement des fonctionnaires des colonies a pour effet de faire converger dans certains secteurs où émerge la question migratoire des fonctionnaires qui sont passés dans l'expérience coloniale et qui en retirent, là encore, en tendance. Tous les fonctionnaires des colonies ne sont pas ni des racistes, ni des bourreaux, ni quoi que ce soit, mais en tendance, une intériorisation d'un rapport à l'indigène qui est basé sur la différenciation raciale, sur le mépris, et en plus de ça, une peur de l'indigène liée aux guerres de libération qui ont transformé d'une certaine manière l'indigène indépendantiste en terroriste, dangereux, effectivement, puisque guerroyant pour sa propre liberté. Et cette concentration dans les secteurs d'émergence de la politique migratoire des années 60, prépare l'émergence, on le voit, bien avant le choc pétrolier de 74, et là-dessus, je dois dire qu'il y a les chercheurs qui ont, une grosse partie des chercheurs et de mes prédécesseurs qui ont travaillé dans les années 80-90 ont manqué une dimension essentielle de la question migratoire en faisant de l'année 74 une sorte de Big Bang, de grand commencement des politiques antimigratoires, alors que tout nous donne à voir aujourd'hui que cette politique s'inscrive dès les années 60 dans le sillage de la décolonisation et qu'elles sont déjà construites dans l'appareil d'État, 74 ne faisant qu'ouvrir une fenêtre d'opportunité pour leur politisation explicite à destination du grand public. Autre élément de cette reconstruction historique, les extrêmes droites européennes qui réapparaissent, mais elles réapparaissent, je crois que c'est ça le plus important à retenir, elles réapparaissent toujours, et c'est valable pour la France, mais je suis allé voir sur l'Italie, sur l'Autriche, sur les Pays-Bas, sur la Grande-Bretagne, elles réapparaissent, ces extrêmes droites politiques, partisanes, avec 5 à 10 ans de retard par rapport à la réémergence des politiques antimigratoires. Autrement dit, l'interprétation qui viendrait, qui a été prédominante dans les années 80-90, qui viendrait expliquer ces politiques antimigratoires comme le reflet démocratique d'une volonté populaire s'exprimant dans les urnes, est une interprétation qui est fausse, tout simplement parce que chronologiquement, elle ne tient pas. Ces politiques antimigratoires sont construites longtemps avant le retour significatif des acteurs d'extrême droite dans le champ électoral. Et donc, il y a tout lieu de penser que la relation est inverse, que c'est précisément ces politiques antimigratoires qui ont suscité ce retour des partis nationalistes et xénophobes dans le système politique. D'autres facteurs se surajoutent ensuite. L'effondrement idéologique des gauches européennes en tant que porteuses d'idéologie internationaliste et humaniste est un facteur très lourd qui peut s'objectiver de différentes manières. Je ne veux pas être très long là-dessus. Le déclin des partis communistes est un élément de longue période qui restructure le champ électoral. L'effondrement des idéologies keynésiennes et marxistes, notamment dans le champ académique d'explications économiques et sociales, est un élément lourd également. Le passage des gauches au pouvoir a aussi un effet de, je dirais, socialisation des élites de gauche dans les réseaux d'appareil d'État. Effectivement, ce qu'on observe sur les périodes des années 80-90, c'est que les alternances électorales gauche-droite, aussi bien en France que dans les autres pays, ne font pas alterner la ligne historique des politiques antimigratoires qui deviennent, alors il y a des moments de ralentissement, des moments d'accélération, mais grosso modo, on a une convergence du champ gauche-droite dans cette orientation-là. Combien de temps il me reste ? 2-3 minutes, d'accord. Donc, ensuite, l'européanisation, je vais donc aller très vite, est un facteur de surenchère assez paradoxal si on considère que l'Europe a été construite justement pour éviter ce retour des nationalismes qui ont produit deux guerres mondiales sur le continent. Pour des effets, pour des raisons qu'on peut assez bien expliquer sociologiquement, l'européanisation qui se joue à partir de la construction de l'espace Schengen dans les années 90 et du sommet de Tampere en 99, aujourd'hui fonctionne comme un moteur d'activation de surenchère, essentiellement parce que ce qui guide les technocraties européennes, c'est toujours cette notion de convergence. Et quand il y a convergence des principaux États membres dans une direction qui est celle du blocage des frontières et de la lutte antimigratoire, eh bien les directives et les règlements viennent rajouter des exigences supplémentaires dans cette direction-là. Le sécuritarisme des années 90 et aussi dans les années 2000, la lutte contre le terrorisme est une accélération supplémentaire. Et il y a tout lieu de penser que la crise économique, l'effondrement économique depuis ces deux dernières années, si on compare avec ce qui s'est passé dans les années 30 et qu'on rapproche de la crise de 29, aggrave encore le phénomène. Alors, je ferai qu'une simple conclusion, mais je laisse au débat le fait de pouvoir revenir à la question que faire face à cette évolution globale. C'est une question complexe. Il est évident qu'on ne peut pas répondre à cette question sans tenir compte d'abord du diagnostic, c'est-à-dire bien prendre l'ampleur du phénomène dont il s'agit, à savoir que le ministère de l'Identité nationale, qui est d'ailleurs présent sous d'autres intitulés dans les autres pays, n'est pas une simple recette électorale de la période Sarkozy. C'est véritablement le produit d'une sociogénèse historique de plusieurs décennies. Autrement dit, on ne démantèlera pas ce phénomène-là à la va-vite et en quelques coups de cuillère à peau politique, quelles que soient les alternances électorales qui arriveront dans les prochaines années. Deuxième aspect de cette question, comment résister, c'est on ne peut pas répondre à cette question sans tenir compte de la position de celui qui répond dans le champ social, sans tenir compte de la diversité des positions d'acteurs comprenez bien que pour résister à cette poussée du nationalisme xénophobe, le ministre a des moyens, des ressources de pouvoir qui ne sont pas les mêmes que celles du citoyen ordinaire. On pourrait y répondre différemment, selon qu'on est travailleur social, journaliste, avocat, enseignant, etc. etc. Donc la réponse nous plonge dans une complexité sociologique qui est aussi vaste, finalement, que le diagnostic, et qui, à mon avis, justifie de mobiliser les sciences humaines et sociales autour de cette question-là. Pour y répondre d'abord, en tant que chercheur, il faut accepter de se poser la question que faire, comment résister, comment agir, et ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile, pourquoi ? Parce que le champ académique s'est transformé ces dernières décennies, au fur et à mesure notamment de la professionnalisation des sciences humaines et sociales, et puis d'un certain nombre de transformations idéologiques qui le traversent. On est formé dans une culture qui est celle dite de la neutralité axiologique, assez abusivement d'ailleurs imputée à Max Weber, et qui conduit les chercheurs effectivement à confondre la neutralité dont il parlait, qui est celle du professeur en chaire, en position d'autorité, et en raison même de cette position d'autorité, avec la neutralité du savant, du scientifique, c'est-à-dire du chercheur s'exprimant dans l'espace public, dont Max Weber, auquel Max Weber n'imposait rien d'autre que ce qui s'impose aux citoyens ordinaires, et de reste, ses écrits politiques sont politiquement orientés, conservateurs, absolument explicites. Donc je crois que la première chose qu'il faut faire en tant que chercheur, c'est rompre radicalement avec cette idéologie professionnelle, d'une certaine manière technocratique, de la neutralité axiologique, je dirais, dans les publications et dans l'espace public. Et puis d'autre part, considérer que la question « que faire » est une question, je dirais, aussi complexe sociologiquement que la question « que se passe-t-il », hein, », c'est-à-dire que la question du diagnostic. « Que faire » est une question complexe parce qu'elle nécessite d'avoir une réflexion sur l'efficacité, notamment des stratégies d'action, et cette réflexion sur les stratégies d'action passe par une analyse approfondie des rapports de force, des possibilités, des ressources de pouvoir, des coalitions, des contraintes qu'ont les acteurs les uns vis-à-vis des autres. Alors, j'ai pas le temps du coup de développer puisqu'il faut que je laisse le micro, mais au-delà de ce qui concerne les chercheurs eux-mêmes, je pense que on peut, à travers l'analyse des différentes positions d'acteurs susceptibles de résister, dégager un certain nombre de tendances, prise de distanciation intellectuelle, autonomie organisationnelle, contournement légaux des régimes juridiques à la dérive, repolitisation des enjeux techniques, s'extraire de la routine, comme le disait Anna Arendt, déployer les solidarités de proximité dans l'espace public. On arrive quand même, à travers une analyse des positions en présence, à dégager quelques tendances de possibilité de résistance face à ce phénomène-là, et qui justifie, à mon avis, que le sociologue s'engage massivement dans cette question-là.
Bonjour, d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir